Il est tout juste 18h sur Radio Campus Paris. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec La Porte à Côté.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News.
Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
And where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can.
Salut à tous, vous êtes bien dans La Porte à Côté, l'émission de reportage de Radio Campus Paris. Cette semaine, on prend la route direction Trélazé, une petite ville située près d'Angers, dans les Pays de la Loire. Trélazé, c'était la capitale de l'ardoise, un âge d'or révolu car aujourd'hui, les mines dont on extrayait la roche sont à l'arrêt. La fin d'une époque et un symbole de plus de la désindustrialisation qui frappe la France. Pour vous, La Porte à Côté est allée à la rencontre des mineurs de l'ardoise, ceux-là même qui ont fait tourner la mine pendant plus d'un demi-siècle. Les ardoisiers de Trélazé, épisode 1, c'est un reportage de Violette Voldoir et c'est tout de suite dans La Porte à Côté.
Trélazé, c'est une petite ville dans l'ouest de la France. En plein cœur de l'ancienne région minière de l'Anjou, elle est à seulement un quart d'heure en voiture d'Angers. De la route, on aperçoit de hautes tours en fer, elles dépassent au-dessus des arbres. Chacune signale une ancienne mine. Depuis 1000 ans, ceux qu'on appelle les ardoisiers creusaient la terre et fendaient l'ardoise du Maine-et-Loire. Mais les puits ont fermé les uns après les autres. En novembre 2013, l'entreprise Imerys a fermé le dernier, le puits 7 Montibert, ici, à Trélazé.
Bonjour.
Venir les ardoisiers.
Bah, je vais me garer, j'arrive.
Bonne chance, bon courage.
À tout de suite.
Aujourd'hui, ils sont une soixantaine. Au bout de la route, autour d'un barbecue, ils sont sonnés. Les ardoisiers savaient leur mine en difficulté, mais pas au point d'une fermeture définitive. Jean-Pierre Jamin, aujourd'hui machiniste, est ardoisier depuis 1978. Il a commencé comme fendeur d'ardoise.
Même que là, moi je pars bientôt en retraite, ça me fait chier que ça ferme. On a un produit, on a l'ardoise du pays, on a un label quand même.
C'est un patrimoine, c'est une qualité française qu'on a depuis des années et qu'on peut encore maintenir, autant la maintenir en vie.
Olivier Lelièvre, que ses collègues surnomment Lapin, est entré aux ardoisières il y a 24 ans déjà.
Là, sur la manifestation qu'on est là, vous avez beaucoup de retraités. Pourquoi ils sont là d'après vous? Ça aurait été une usine, travailler à la chaîne, un truc comme ça, les retraités. Parce que là, c'est eux, c'est vraiment le cœur, c'est leur âme, c'est tout. Hein. Et c'est un métier qui vient disparaître. Et jamais on retrouvera ça. On a mis des années à apprendre ça et c'est quand même un savoir-faire. Et on ne le verra plus, on ne trouvera ça nulle part. C'est impossible. Et moi, j'ai toujours travaillé au fond. J'ai fait 24 ans. Et moi, j'ai toujours connu l'exploitation par un puits. Et j'ai travaillé sur les deux, les Freinets et sur les grands carreaux, et ben voilà, c'est le dernier. Je suis passé agent de maîtrise il y a un an.
Agent de maîtrise, c'est quoi?
Chef. Donc j'ai eu une promotion il y a un an, et puis ben voilà, maintenant c'est terminé, quoi.
Donc là, on marche sur quelle... C'est quoi cette route? Ça mène
Alors ça emmène sur le puits 7 Montibert.
Donc là, autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, je vois qu'il y a une structure en métal.
Alors le chevalet ici, là, c'est ce qui sert à monter et à descendre la cage, qui sert à descendre le personnel, comme un ascenseur. Ça fait trentaine de mètres de haut, peut-être.
Autour de la grande tour en fer, les ardoisiers vont et viennent, un peu perdus. Tout le monde est venu en tenue de travail, comme si d'un instant à l'autre, tout allait reprendre, comme avant.
On nous dit on travaille de cet après-midi, la machine démarre.
On a trois trains de pierre qui est chargé, qui est prêt à rouler. Ouais. On a fait préparer ça en pensant qu'on était au chômage partiel pour une semaine.
Mais là, il y a quatre rames. T'as combien, ça fait combien par rame? T'as combien de pierres?
14.
14, mais en poids, je veux dire en poids...
C'est des bonnes charges.
Bah, bonnes charges, ouais. Bah, 10 charges, mettons 10 charges à 6 tonnes, vous voyez. Là, on peut alimenter l'atelier pendant 2 jours, là. Ça y est, c'est parti.
T'as les clés de la machine?
Trélazé, c'était l'une des 3 dernières mines de France. Il reste bien des carrières à ciel ouvert, mais rien de comparable à ce qui se trouve sous nos pieds.
J'aimerais bien faire un tour, hein, ça vous a...
Jean-Pierre Jamin.
Je suis tuyau de la machine.
C'est dur comme métier?
Bon, physiquement non, mais disons, c'est stressant, plus qu'on... stressant surtout quand on voit les clients qu'on a hein, dans la cage. Si ils ont confiance en moi, heureusement, parce que c'est moi qui arrête tout. C'est moi qui les descends à tel niveau et qui les remonte à l'heure qu'ils doivent remonter, soit 14h18 exactement. Et l'après-midi de soir, c'est 22h05, c'est ça, ou 06? 06 exactement.
Vous êtes déjà arrivé de louper l'heure?
Ah non, on a intérêt tout à l'heure parce qu'en bas, ils nous attendent depuis un bon quart d'heure, 20 minutes avant. Hein. C'est pas un métier où on doit rigoler. S'il y a un blessé ou il y a quelqu'un à remonter d'urgence, il faut qu'on soit là. La hantise que j'avais, moi, c'est de remonter un macabé, excusez-moi l'expression. Ouais. Quand vous remontez un blessé ou un truc comme ça, c'est quand même c'est costaud. Hein. C'est pas ce qu'on croit. Il y a comme du danger en bas. Hein. C'était dangereux.
On a eu une période, hein. Ouais, on a eu deux.
Ouais, deux morts. Deux morts, ouais.
Alors, il y en a un. Il a été vérifié l'alignement de ses mines. Et son forêt tournait encore lentement. Et son pull s'est pris autour de la barre. Donc ça l'a serré et puis ça l'a étouffé. Ouais. On a eu un deuxième 6 mois après, hélas. Là, on descendait une machine qui n'avait plus de frein, donc attachée par une chaîne. Bah, c'était stabilisé, il y avait le chauffeur dessus. Et puis quand il a voulu aller décrocher la chaîne au milieu, bah, la machine qui n'a plus de frein, elle l'a coincé entre le godet et le pare-choc. Donc là, il est remonté, il y a eu les premiers secours qui ont été donnés, mais il est décédé dans l'ambulance. Quoi.
Creusé il y a plus de 100 ans, le puits 7, comme on l'appelle ici, n'avait jamais cessé de fonctionner.
Là, quand vous êtes en extraction, enfin, quand les moteurs tournent, là, les moteurs font ici, là, mm-hmm. Quand on tourne, on ne s'entend pas pareil ici. Là. Ah, là, c'est infect. Hein.
Ici, les époques se mélangent. Dans le local technique, des pièces et des outils flambant neufs côtoient des machines vieilles de plusieurs décennies.
Si le matériel est entretenu, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça marche bien. Nous, à Noyon, on avait un puits de secours, c'était une vieille loco. Tu avais 6 vitesses à monter, 6 vitesses à descendre. Mais tous les jeudis, moi, j'y allais, je faisais l'entretien. Oui. Ça, c'est la base.
C'est arrivé, on a eu une panne, on ne pouvait pas remonter par ce puits-là. Donc, on a un puits de secours. On passe par des anciennes galeries. Et là, vous avez un bassico, un genre de bassine harnaché sur un câble qui fait la grosseur d'un petit doigt. Ouais. Et on met 4 personnes dedans. Ouais, et vous n'avez rien qui vous tient. Ça arrive que ça tourne. Donc les gars, avec les mains sur les parois, on se guide un petit peu pour éviter de trop se balloter. Bah, faut pas regarder en bas, quoi. Disons, on voit rien, ça fait noir, mais si on regarde avec la lampe, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Le plus dangereux, c'est arriver à la gueule du puits. Là, vous avez une buse, un cercle en métal. Et là, faut que la cage, elle passe juste dedans, quoi. Faut pas que ça accroche dedans.
Quand on est arrivé la première fois, je suis arrivé là-bas, j'ai senti une cambrousse.
Une fois, à l'entrée de ce puits-là, là, je me mets juste à l'entrée du puits pour guider les gars. Et on avait des pompiers qui étaient en manœuvre à côté du puits, qui sont venus. Il dit, y a quoi au bout du câble, là? Bah, j'ai des gars. Il me dit, des gars? Bah, j'ai dit, oui, il y a une cage avec des gars. Mais il dit, vous êtes des malades. Puis quand on arrive au jour, le gars dit, mais vous êtes des fous, jamais de la vie je descendrai là-dedans.
Dans la mine, les ardoisiers s'enfoncent jusqu'à près de 600 mètres sous la terre, soit 2 fois la taille de la tour Eiffel. Ils s'en remettent aux mains expertes du machiniste. Le pilote de l'ascenseur est leur seul lien avec le monde extérieur.
C'est le poste de pilotage. Normalement, ça va fonctionner.
Il fait bien chaud ici.
Ah bah, c'est bon, là. Alors, on s'installe ici, vous voyez. On s'installe là.
Vous avez une manivelle de chaque côté?
Là, vous avez, c'est le frein, ça. Et ça, c'est monter-descendre. Parce que là, c'est manuel. Hein. Alors là, il y a le téléphone.
Alors ça, c'est une molette que vous tournez.
Ouais, ouais. C'est une résistance, ça marche très très bien.
C'est ce que vous retrouvez dans les mines de charbon.
Ouais. Nous, dans la première mine où j'ai travaillé,
On n'avait que ça.
La phonie est super bien faite. On entend les gars, on entend les gars.
Eh bien, nous, on est assis ici, toute la journée, et avec les caméras, on voit ce qui se passe sur le puits. On voit l'avant du puits et l'arrière du puits.
Donc vous ne voyez pas ce qui se passe au fond?
Ah non, non, non. Nous, on se repère à ça. On n'a pas autrement, nous, on voit rien.
Sous nos pieds, c'est un vrai gruyère. Les galeries s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres.
Les petites galeries qui mènent, comme celle qu'on a, où elles font 2,50 m de haut, ça va faire 3 mètres de large. Celle de l'atelier, là, on arrive à 6, 7 mètres de haut. Ouais, c'est énorme. C'est pas, on n'est plus à l'époque avec la pioche à quatre pattes. Non, c'est terminé ce temps-là. Là, c'est de l'abattage. On fait de la foration, c'est-à-dire on fait des trous, plein de petits trous, sur 3 mètres de long. On charge en cisalex, parce que vous avez de la cisalex, ça sert à découper la pierre, et vous avez la dynamite, ça sert à foudroyer. On charge, on tire, et sur la longueur de 40 mètres sur 3,50 m, la pierre elle est tombée par terre.
À une période, on a eu des camions.
Oui, un camion de chantier, quoi. On les enquitte, on les démonte, tout est descendu et tout est remonté en bas.
Aujourd'hui, toutes les machines y sont encore. Elles rouillent sur pied, à 400 mètres sous la terre. L'entreprise Imerys ne parle pas de céder l'exploitation de la mine à un repreneur. L'activité est suspendue, les mineurs sont en sursis. Pour le géant de l'industrie minière, l'ardoise de Trélazé n'est plus une activité rentable depuis des années.
Évidemment, puisqu'on n'a pas fait de recherche.
Jean Berthollet est l'ancien maire communiste de Trélazé.
Un gisement, il a une durée de vie limitée. Mais si on ne fait pas de recherche, c'est sûr qu'il s'épuise. Et les recherches, il faut les faire très longtemps à l'avance, et ça coûte cher. Parce qu'il faut d'abord détecter où est la veine. Alors, il faut faire des carottages, bien repérer le filon, sans qu'on produise de l'ardoise. Puis après, il faut faire des sondages pour la qualité, parce que le filon n'est pas homogène. Il a subi des pressions, il y a des endroits où la pierre est altérée, il y a des endroits où elle est meilleure. Et après, quand on est sûr que dans la veine, la veine est bonne et qu'on peut y aller, il faut faire des travaux préparatoires, c'est-à-dire descendre à côté du gisement par un puits, et puis ouvrir un travers banc, c'est-à-dire un couloir, qui débouche dans la veine. C'était ça, la mine.
Imerys affirme pourtant avoir fait toutes les recherches qu'il fallait, avant de se décider à fermer la mine. Il y a 6 ans, la compagnie minière avait même un projet de développement dans ses cartons, et puis la crise est passée par là. Un nouveau projet industriel devenait trop risqué.
Moi, j'ai toujours dit que les ardoisières ont pratiqué une stratégie du déclin.
Pour l'ancien maire, la crise a bon dos. Cette fermeture, c'est surtout le dernier épisode d'une longue série d'erreurs industrielles.
La stratégie d'Imetal puis Imerys, propriétaire des ardoisières, ça a été de précipiter les choses. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire autour des ardoisières, mais c'était des entreprises familiales. On transmettait le bébé de père en fils. C'était des vieilles dynasties ardoisières. Tandis que là, maintenant, on a affaire à des géants de la finance. C'est Imetal d'abord. Il y a eu une OPA. Voilà. Un beau matin, sous l'Aise-la-Rivière, PDG des ardoisières, veut entrer dans son bureau avenue des Champs-Élysées à Paris, il voit quelqu'un assis à sa place, dans le fauteuil de président. Et le type lui dit, monsieur Soulet-Sarrivière, ça y est, vous n'êtes plus président de la société des ardoisières, il y a eu une OPA. Ah, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été débarqués. Et Imetal, ça sera la même stratégie avec Imerys, on exploite ce qui est vraiment rentable. Si ça ne rapporte pas assez. Et alors, Imetal, son objectif, c'était l'abandon de l'exploitation souterraine. Au lieu de descendre par une cage, comme au 7, là, à l'entrée du bourg, on va investir dans une carrière à ciel ouvert. Donc, économie sur la main-d'œuvre. Et on ouvre une carrière à coup de. Alors là, ils mettent le paquet. Hein. Les milliards tombent. Les vieux Trélazéens disent, mais ils sont fous, il n'y a jamais eu d'ardoise dans ce coin-là. Alors ils commencent, ils font sauter à la mine des bancs d'ardoise, ils mettent des gars à fendre pour vérifier la qualité. Alors on descend 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 25 mètres. Le type qui fendait l'ardoise, je le connaissais bien, il habitait pas loin de chez moi. Il m'a dit, moi, je ne fends pas de l'ardoise, je fends du carton. Il m'a dit, un fiasco, mais incroyable. Incroyable. À un tel point qu'ils ont abandonné la carrière à ciel ouvert. Aujourd'hui, un magnifique plan d'eau. Hein. Et alors, quand Imerys a pris le bébé, bah, c'était la même stratégie. Parce qu'Imerys est retombé dans le même défaut, c'est qu'ils ont ouvert une descenderie, non pas là où il y en avait eu une avant, mais près d'un autre puits qui s'appelle l'Effréné. Ils ont ouvert une descenderie. Et pendant toute la période, on a exploité l'Effréné, on n'a pas fait de recherche, puisqu'on avait trouvé soi-disant des solutions miraculeuses. Alors les recherches, ça demande des investissements importants, et ça se fait longtemps avant. Comme on n'a fait ni l'un ni l'autre, ben on se trouve le bec dans l'eau aujourd'hui.
Pour les ardoisiers, cette situation est inacceptable. Ils affirment qu'ils savent très bien où aller chercher de l'ardoise. De l'ardoise de qualité, suffisante pour un bon rendement économique et une relance durable de leur activité. En revanche, ils admettent que cela pourrait bien prendre quelques années. Le temps de faire des sondages et de creuser de nouvelles infrastructures. Autant d'années pendant lesquelles il n'y aura pas de production, ou presque. Difficile donc de trouver un industriel prêt à attendre aussi longtemps.
La porte à côté s'est terminée pour cette semaine. Lundi prochain, vous entendrez la suite de ce reportage avec les mineurs de Trélazé. D'ici là, vous retrouvez toutes nos émissions en podcast sur le site internet radiocampusparis.org et aussi sur notre page Facebook, La Porte à Côté. À 19h, vous avez rendez-vous avec la matinale. Passez une excellente semaine à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9. Salut !